Et puis, c'est ça, on va parler des frères et sœurs aujourd'hui. Portrait de famille, frères et sœurs. Et des frères et sœurs, et là, j'ai une sœur dans la salle, fait qu'il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, OK? Mais des frères et sœurs, c'est aussi identique que différent. Dans le sens que, est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Eux autres sont toutes faites sur le même moule. En voulant dire que les frères et sœurs se ressemblent tellement, mais en même temps, on se rend compte pour vivre ensemble ou d'avoir vécu ensemble. Puis là, il y a des frères et sœurs qui vont se regarder en disant « Non, on n'est pas pareil, c'est sûr. » Ça peut-tu ça, ouais? On est à la fois autant différents. Des fois, on a l'impression que c'est pareil. Puis je me rappelle un moment donné avec notre famille, on est 7 enfants chez nous. Je suis le plus vieux. J'ai 5 sœurs et j'ai un frère. Je ne vous parlerai pas de l'analyse sociologique de notre famille, OK, c'est pas le but, mais on va voir une famille dans la parole tantôt. Mais on avait fait, juste pour le plaisir, le même test de personnalité, toute la gang, avec un de nos parents, pour finalement se rendre compte qu'il y avait genre 2-3 traits, tu sais, c'était comme 5 catégories, là, mais il y en avait 3 que finalement tout le monde était pareil. C'en était un peu troublant. Alors, on est comme, on a l'impression, bien là, si c'est pareil, bien, tout le monde, on est pareil. Mais on se rend compte que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, bref, quand on n'est pas pareil, quand on a l'impression qu'on est pareil, mais qu'on se rend compte qu'on ne l'est pas, des fois, ça peut amener des petits conflits, des petits « Hey, tu es supposé me comprendre, toi? Voyons donc, on est de la même famille. On a vécu dans la même maison. On a entendu les mêmes consignes. On a vécu... » etc., etc. Mais finalement, on se rend compte qu'on est différent. Puis on va voir dans la parole, là, vous l'avez vu, il n'y a plus de punch. Vous avez vu ma fratrie sur l'écran. Ce qu'on va faire ensemble, c'est que je veux qu'on approfondisse la parole, puis je m'assois parce que vous allez avoir besoin de votre Bible, votre application. Et puis, on va regarder verset par verset, justement, une histoire de famille. Une histoire de famille ensemble. De la même façon que de part d'autre façon à un membre de la famille, d'une autre façon à un autre membre de la famille. Je vais vous prenait pas de chance. C'était un Kodak jetable pour une photo de famille. En tout cas, bon, on passe. Il y a des ados qui font quand? Comment ça, tu ne voyais pas la photo? Non, tu la voyais quand tu allais à la pharmacie, la faire développer, puis qu'après ça, ils t'appelaient 2 jours après pour que tu ailles ton enveloppe, puis après ça, tu regardais, puis tu faisais ah non, c'est à recommencer. Et là, tous les enfants qui avaient pris la photo, qui avaient eu besoin d'une heure pour prendre ces photos-là, sont comme, oh, va falloir se retaper ça. Arc. Bon, je vous présente un autre portrait de famille. Le portrait de Marthe, Marie et Lazare. En fait, je vous donne des caractéristiques, puis on va les voir à travers le texte. Donc, je vous parle un petit peu de leur profil, OK? Qui ils sont, comment ils sont. Alors, on commence avec Marthe. Marthe, je dirais que c'est une fille, une femme qui est fonceuse, qui est efficace, qui est hospitalière, qui est extrovertie et qui a une mesure de foi, on le voit à travers ses interactions. Alors ça, c'est le portrait de notre amie Marthe. On a aussi sa sœur qui s'appelle Marie. Marie, on voit qu'elle est sensible, elle est à l'écoute, elle prend soin. On devine qu'elle est introvertie, qu'elle est émotive, puis l'aspect de la dévotion, c'est quelque chose de super important pour elle. Deuxième personne dans la famille. Et le troisième personnage dans cette famille-là, le dernier portrait, Lazare, c'est intéressant parce que dans tout ce qu'on entend de lui, il ne parle pas. On va pas essayer d'aller plus loin que ce que le texte, mais il ne parle pas. Toutefois, il est présent, c'est un ami de Jésus et je dirais qu'il est bien entouré dans l'épreuve. C'est-à-dire que quand il souffre, qu'il est malade, il va être bien entouré par ses sœurs et ses proches, les Juifs, on va le voir tout à l'heure. Alors, peut-être qu'on pourrait deviner qu'il y a quand même des bonnes relations avec les uns les autres, parce que quand il est dans l'épreuve, tout le monde est là. Sauf Jésus, mais ça, on va le voir tantôt. Alors, pas de famille, et là, on va voir un petit temps en bouche. dans Luc 10, un épisode, et après ça, on va aller dans notre texte principal, mais ça va nous donner un petit peu la dynamique familiale, OK? Luc 10, au verset 38, vous l'avez à l'écran. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. » Elle survint et dit, et là les frères et sœurs, écoutez bien ceci, ça c'est très drôle. Marthe va dire à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Et là, ça c'est des très mauvais souvenirs. « Maman, peux-tu dire de me redonner mon jouet? » Plutôt que d'y demander directement, est-ce que vous avez déjà été des parents qui ont fait, « Est-ce que tu lui as demandé de te le donner? » « Non, mais maman, peux-tu lui dire de me le donner? » On sent une petite tension familiale ici, hein? Une petite tension du genre, là, elle m'écoute jamais, fait que je vais demander à Jésus pour qu'elle m'écoute. Peux-tu y dire de venir nous aider? Intéressant, hein? Et c'est intéressant de voir à quel point, même si on est frères et sœurs ici, ils n'ont pas l'air de se comprendre, mais pas du tout. Marthe a l'attente qu'elle vienne l'aider, puis Marie, elle ne voit pas l'attente d'aller l'aider parce qu'elle fait d'autres choses. Ça va? Petite dynamique familiale ici. Jésus lui répondit, fait que plutôt que de parler à Marie, comme Marthe lui demande, Jésus va s'adresser directement à Marthe en disant « Marthe, Marthe ». J'imagine Marthe, 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 Marthe. Pour ceux qui aiment le hockey, vous savez à qui je fais référence. « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » Intéressant ici que on voit que les deux ne connectent pas avec Dieu de la même façon. Marie connecte avec Dieu en étant totalement concentrée sur les paroles de Jésus. Alors que Marthe, dans son service, elle connecte avec Dieu, elle sert le Seigneur. Et pour elle, c'est quelque chose de naturel de vouloir servir Jésus. Mais ici, Jésus va lui dire pas « ton service n'a aucune valeur ». Il va lui dire, finalement, il y a une priorité prioritaire que tu n'as pas compris. Marthe, 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 Marthe. Et ça, c'est un enseignement universel, hein, des dangers de la distraction, des priorités prioritaires. Et on voit ici que Jésus utilise cette situation-là pour étirer Marthe. Marthe est habituée d'être dans le service, puis on va le voir plus tard, mais elle l'étire pour qu'elle puisse découvrir une autre façon de connecter avec Dieu, celle d'être complètement à l'écoute de ce que Jésus dit. Ça va pour la dire jusqu'ici? Ça, honnêtement, ce message-là est tellement important, tellement pertinent pour chaque personne qui vit dans notre année 2026. Cette idée-là d'être capable de s'arrêter au pied de Jésus et d'écouter Jésus. Est-ce qu'il y en a qui ont des distractions potentielles autour d'eux? Bon, ça va? OK, on comprend tout ce que ça veut dire. Et on va dans notre texte principal, dans Jean 11. Et là, on a une histoire, un récit, une histoire de famille. Si vous avez votre application, votre Bible papier, ouvrez ça à Jean 11. Même si le support est là, vous allez être capable de mieux suivre. Une histoire qui est un deuil d'une tristesse épouvantable et en même temps, l'euphorie aussi. Euphorie, c'est tout ça qui arrive dans ce même récit-là. Et quand on est dans une fratrie, quand on a des frères et sœurs, souvent on vit des choses intenses émotionnellement, autant très joie que très triste. Okay? Ça fait partie d'une famille, ça fait partie d'être avec d'autres gens dans la même maison. Et puis, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Alors, Jean 11, verset 1, ça veut dire qu'il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Je fais du pouce sur ce qu'Annie, Pasteur Annie a dit la semaine dernière. L'ordre des personnes mentionnées est important dans la parole. Okay? Alors, ici, on commence par Lazare parce que c'est lui qui est malade. Ensuite, on parle de Marie parce que le verset d'après va parler de l'histoire de Marie et on finit par Marthe. Mais vous allez voir qu'aussitôt que le récit change, Marthe arrive en premier parce que c'est elle qui prend les devants. Okay? Alors, le village de Marie et de sa sœur Marthe, verset 2. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère qui était malade. Alors, verset 3, les sœurs, ensemble, hein, en équipe, y envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Ce n'était pas juste une information, s'il te plaît, prends-le en note dans ton calepin. Ce que les sœurs sont en train de vouloir dire ici, c'est « Peux-tu venir parce qu'on aimerait ça qu'il ne soit plus malade? Pourrais-tu venir le guérir? » Mais il l'informe parce que c'est son ami, celui que tu aimes, l'ami de Jésus, Lazare, il est malade. Et honnêtement, culturellement parlant, à cette époque-là, s'il y a quelqu'un qui était malade et ton ami est malade, tu as le devoir d'aller l'aider ou le soutenir. Tu ne peux pas ne pas y aller. Et Jésus, quand il décide de ne pas y aller, il est en train de contrevenir à une règle sociale où est-ce que tu as besoin d'être là. Mais là, il l'informe, elle vient-t'en. Et là, à cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, regardez bien ceci, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était, puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Jésus contrevient à cette idée même de soutenir la famille. Remarquer quelque chose dans ce texte-là, que le mot amour et maladie cohabitent sont vraiment intenses dans ce texte-là. Vous voyez sur l'écran en rouge, hein, il y avait un homme qui était malade, son frère qui était malade, celui que tu aimes est malade, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il lui a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours. Et là, c'est intéressant parce que dans notre tête, là, dans notre tête de Nord-Américain, l'amour et la maladie ne peuvent pas cohabiter dans le cœur de Dieu. Des fois, on a cette espèce de raccourci dans notre tête. Si je suis malade, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. Ou si Dieu m'aimait, je ne serais pas malade. Vous comprenez l'espèce de lien qu'on peut faire dans notre tête? Mais ici, honnêtement, on n'a pas marqué qu'on l'a lu au départ. Que l'amour et la maladie cohabitent dans le cœur de Jésus, et c'est tout à fait normal. Ce n'est même pas quelque chose de qui se sent mal, non. Et à quelque part, je pense que ce que je veux dire par là, c'est que l'amour de Jésus ne nous empêche pas d'être malade. Ce n'est pas par amour qu'on est malade, vous comprenez? Là, je ne suis pas en train d'aller là. Mais à quelque part, Dieu nous soutient dans cette maladie-là. Et à quelque part, beaucoup de malheurs affligent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Hein? Alors, on ne devrait pas être surpris que parfois, il y a des petits bobos, il y a des petites maladies, et comme j'aime le dire, des fois, le check engine est allumé. Lorsqu'on devient un petit peu plus âgé, il semblerait que le check engine reste allumé. Quand on est plus jeune, on a encore l'occasion. Il semblerait qu'à un certain âge, puis là, je ne suis pas encore rendu là, mais je sais que je vais l'expérimenter un jour, le check engine va rester allumé. Et puis, il y a toujours des petits bobos. Mais, petite parenthèse, l'amour et la maladie n'enlève rien à l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu n'empêche pas à quiconque d'être malade. Ça vous va? On continue notre texte. On va passer quelques versets, parce que là, c'est les disciples qui discutent avec Jésus, puis moi, je veux me concentrer sur la relation entre Jésus et la fratrie dans laquelle on veut parler. Alors, on va aller au verset 17. Alors, ça dit ceci, « À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. » Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. On fait une petite pause ici. Les coutumes au niveau d'un deuil comme celui-là, ça peut être intéressant de les expliquer pour comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a un terme qui appelle, eux, ils appellent ça la Shiva. En fait, c'est que le premier jour où est-ce que la personne décède, comme c'est une très bonne pratique dans les pays chauds, et c'est, au Québec, on est moins là, mais on va enterrer ou on va embaumer la personne la journée même de sa mort. On n'attend pas 3 semaines, 4 semaines avant de faire les funérailles. Vous comprenez, là, nous, on est dans un contexte où on ne comprend pas pourquoi, mais le premier jour, on procède à l'idée de l'embaumement. Ils vont l'envelopper dans des bandelettes, puis ils vont le mettre dans un endroit avec une pierre, ils vont mettre des aromates. Et les 6 jours d'après, Shiva 7, les 6 jours d'après, c'est un moment où est-ce que la famille reste à la maison et où est-ce que les gens de la famille, les gens, les amis, les gens du village viennent à la maison pour soutenir, pour encourager, amener de la nourriture puis être là en soutien. Alors, quand on dit qu'il y a beaucoup de Juifs qui étaient à la maison, c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne, un deuil, à cette époque-là, dans la culture juive. Alors, quand Marthe apprend que Jésus est proche et qu'elle sort de la maison pour aller le rejoindre, elle est en train de faire une entorse au protocole. C'est-à-dire que plutôt que de rester à la maison pour recevoir la force et le courage des gens qui la visitent, elle sort de la maison pour aller voir Jésus. Pour nous, ça semble banal, mais dans la culture, ça veut dire d'autres choses. Alors qu'elle va à sa rencontre, et là, vous comprenez que si Marthe s'en va, Marie, impossible qu'elle parte elle aussi. Pourquoi? Parce que les deux personnes de la maison ne peuvent pas partir en même temps pendant que la maison est remplie de gens qui viennent les consoler. Ça vous va? Alors, Marthe dévie du protocole, mais Marie, elle, demeure à la maison avec tous les invités. Alors, Marthe va finir par rejoindre Jésus au verset 21. Il va dire la chose suivante. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » La première phrase va être la même que Marie va dire. La deuxième phrase est spécifique à Marthe. Et Jésus va lui répondre, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Et Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Pause ici. Est en deuil depuis à peu près 4 jours. Et Marthe est lucide, elle est allumée, elle est capable de raisonner immédiatement à ce que Jésus lui dit. Et dans sa souffrance, elle va affirmer sa foi, elle va affirmer sa confiance et sa compréhension de qui Jésus est. Il est un ami, il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Hey! Quand tu es dans un début de deuil, c'est quand même pas si pire, hein? Je veux dire de quoi que c'est quelque chose de voir la discussion entre Jésus et Marthe alors qu'elle est en plein milieu du deuil. Et la culture juive, lorsqu'ils viennent consoler à la maison, même il y avait ce qu'on appelle des pleureuses. Ils viennent à la maison et ils pleurent à la maison en soutien à la famille. Comprenez que dans ce contexte de tristesse-là, là, vous dites, hey, est-ce qu'ils payent le salaire minimum pour pleurer? Moi, je suis bon là-dedans. Non, non. Vous n'êtes pas né à la bonne époque, désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant de voir à quel point Jésus va répondre à Marthe d'une façon où est-ce qu'il y a peut-être des gens dans la salle ici, vous dites, hey, j'espère que Jésus ne me dirait pas ça quand je suis en deuil depuis 3 jours. Et il y en a d'autres qui font comme, waouh, c'est exactement comme ça que j'aimerais que Jésus me parle. Parce que, comprenez-moi bien, ce que Jésus est en train de dire à Marthe, c'est un des 7 « Je suis la résurrection et la vie ». C'est un énoncé théologique d'une profondeur incroyable. Il y a quelque chose, elle a le privilège d'entendre ça et de réaliser à quel point Jésus est au-delà même de la vie, de la mort. Il est la vie et la résurrection. C'est un privilège incroyable. Mais quand je vois la vie de Marthe, j'ai l'impression que c'est comme Pierre en version féminine. Tu sais, l'apôtre Pierre qui est prêt à dire « Ouais, let's go, on y va! Oui, je crois que tu es le Messie. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. » Et on voit que Jésus répond à Marthe selon sa personnalité, selon comment elle est ficelée. Et là, on va voir la différence avec l'autre, OK? Avec sa sœur Marie. Alors, on est rendu au verset 28. « Après avoir dit cela à Marthe, Marthe, elle a appelé secrètement ou subtilement sa sœur Marie en lui disant « Le maître est ici et te demande. » Et probablement qu'elle dit très, très bas. Pourquoi elle le dit très bas? C'est parce qu'elle ne veut pas que tous les invités l'entendent pour que Marie puisse être capable d'aller parler à Jésus one-on-one comme elle lui a parlé en one-on-one. Alors, elle dit subtilement, puis probablement qu'elle lui dit une phrase comme « Vas-y, moi, je reste ici avec la gang. » Parce qu'on ne peut pas partir les deux ensemble. Vous comprenez? Et là, ce qui se passe, c'est qu'à ces mots, Marie se leva, dévie à son tour du protocole, sans attendre, et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Fait que Jésus ne s'est pas approché, il est resté au même endroit. Verset 31, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Intéressant ici que les Juifs, quand ils voient Marthe partir, ils ne la suivent pas. Mais quand Marthe se lève, quand Marie se lève, ils la suivent tout de suite. Est-ce que vous avez déjà été un peu jaloux dans votre vie de la réaction que les autres avaient envers votre frère ou votre sœur? C'est comme c'est pas juste qu'ils prennent soin d'elle ou qu'ils prennent soin de lui alors que moi, ils n'ont pas pris soin de moi ou ils ne sont pas venus avec moi jusque là-bas. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? C'est que les Juifs avaient probablement compris que notre amie Marie était plus sensible, était plus émotive, était probablement plus dans le désespoir, dans ce deuil qui était quand même récent. Mais c'est intéressant de voir que la réaction même des Juifs n'est pas pareille envers l'une ou envers l'autre. Alors, on est au verset 32. Marie arriva à l'endroit où était Jésus et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors, voici la différence entre les deux. Marthe arrive devant Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est le même texte, la même phrase. Mais voici ce que Marie va faire, elle. Marie, elle voit Jésus. « Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est la même phrase. Mais ce qu'on voit, c'est que Marie est tombée aux pieds de Jésus. Est-ce que vous vous rappelez que quand Jésus est dans la maison puis qu'il enseigne, Marie était assise aux pieds de Jésus? Ah, c'est comme il y a une petite... Puis on va même le voir plus tard si on est capable de s'y rendre. Vous voyez que la démarche est la même phrase. Vous savez qu'on peut dire la même phrase, mais que dans le non-verbal, ça peut vouloir dire deux choses différentes. Hein? OK. Alors, on est rendu où, là? Ah oui, on est rendu au verset 33. En la voyant pleurer. Fait que là, honnêtement, comme je ne suis pas payé pour pleurer, je ne suis pas une pleureuse, puis il n'y a pas de salaire pour ça, j'aurais pu à genoux me mettre à pleurer, mais vous seriez vite rendu compte que je fakais, alors j'ai décidé de ne pas le faire. OK? Mais ici, on voit que Marie... En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle. Hein, la gang de pleureuses, ils pleurent avec Marie, là. Hein? Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Et voici l'énoncé théologique de Jésus pour Marie. Ça se dit en deux mots. Jésus pleura. Point. Intéressant comment le deuil n'est pas vécu de la même façon par les deux. Hein? Mais intéressant aussi de voir qu'à quel point Jésus est capable de parler selon le cœur de l'une et selon le cœur de l'autre. Il y a des fois où on veut que Jésus nous dise la même chose qu'il a dit au voisin, mais savez-vous quoi? Jésus est capable de connaître la réponse que ton cœur a besoin. Jésus est même capable de ne rien dire quand c'est le temps de rien dire, mais de parler quand c'est le temps de pleurer. Vous savez ce qu'on fait, nous, quand il y a un deuil? On parle aux gens en projetant que les autres sont tous pareils comme nous. Fait qu'on essaye de dire aux autres ce que nous, ils nous consoleraient, alors que bien souvent, même si on est dans la même famille, même si on a l'impression que tout le monde est pareil, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Et c'est intéressant que Jésus va donner des affirmations théologiques profondes à Marthe. Il va juste pleurer pour Marie. Et encore une fois, ne soyons pas jaloux de l'attention des autres ou comment Dieu fait les choses pour notre frère ou pour notre sœur, parce que Jésus connaît bien mieux que nous-mêmes, même comment l'autre est ficelé. Amen. OK. Vous êtes encore avec moi? Intéressant quand même de voir la dynamique frère-sœur, hein? Là, il y a du monde qui font comme moi. OK, je vais être obligé de demander pardon. Ah. À vous de voir. À vous de voir. Puis là, Jésus pleura, verset 35. Verset 36, les Juifs dirent alors, « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? » Hein, cette espèce de phrase qui tue tout ce qui bouge, là. Hein? Et voici comment Jésus va réagir à ça au verset 38. « Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. » C'était une grotte, une pierre fermée à l'entrée. Là, il faut comprendre que ici, la plupart des commentateurs vont dire « Jésus est bouleversé, il est indigné, pas uniquement à cause des pleurs de Marie, mais également parce qu'il est en train de voir la condition de l'être humain. Là. Il est en train de voir la condition de désespoir de ceux qui ne croient pas en Dieu. Il est en train de voir la réaction incrédule des gens qui disent ouais, « mais là, s'il a ouvert les yeux des aveugles, pourquoi il l'a pas guéri? C'est quoi son problème? » Vous comprenez ce genre de phrase-là? Et Jésus, ça vient le chercher, l'incrédulité. Ça vient le chercher, cette condition de l'être humain qui est fragile et qui ne le connaît pas. Alors, quand il dit qu'il est profondément bouleversé, indigné, comme remué de l'intérieur, là. Vous savez, c'est quoi être remué de l'intérieur? Faites-le pas aujourd'hui, OK, s'il vous plaît. Mais comprenez ce que ça veut dire. Alors, verset 39, Jésus dit, « Enlevez la pierre! » Qui c'est, vous pensez, qui parle tout de suite après? C'est-tu Marie ou c'est Marthe? C'est Marthe, c'est sûr et certain. Alors, Marthe va dire, « Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà! » Ça fait 4 jours qu'il est là. Et Jésus va lui répondre comment? Avec une affirmation théologique. Il va lui dire la chose suivante. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Alors Marthe, quand elle entend ça, qui a roulé la pierre, elle est comme, là, son incrédulité vient de monter dans le piton. Là. Et comme, là, ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas, on ne peut pas faire ça. Ça fait 4 jours qu'il est là. Ça va sentir le cadavre. Mais là, finalement, elle, c'est une extrovertie, elle est pratique, elle est fonceuse. Donc, aussitôt que Jésus donne cette ordre-là, hey, ça ne prend pas 10 minutes de processer ça. Elle se lève puis elle dit. Et là, on continue. Jésus va dire, ils enlevèrent la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, imaginez la scène, là. Après avoir dit ça, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » J'ai pris une voix forte, mais je ne vous ai pas pété les oreilles dans le micro, OK? « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Contexte culturel. Quand on enroule, on se trappe pour vrai, là. C'est serré. Alors, il y avait de la misère à marcher parce qu'il était vraiment enroulé, serré. Et la chose qu'il faut comprendre, c'est que dans la culture juive, les hommes ne peuvent pas embaumer des femmes, mais les femmes peuvent embaumer des femmes ou des hommes. Alors, fort à parier que c'est Marthe et Marie qui ont enroulé leur propre frère dans le tombeau. Et c'est elles qui ont probablement mis des aromates aussi. Et elles savent très bien qu'après 4 jours, quand même que tu mettras des aromates, l'odeur s'est dissipée. Si vous mettez une chandelle là, qui sent la lavande, là, tu sais, ce qui sent pas bon, mais que tout le monde pense que ça sent bon, là. OK? Puis que vous la faites brûler chez vous, là. Après une journée, tu vas peut-être être béni de ne plus le sentir. Ça ne dure pas pour toute la vie. Merci Seigneur. C'est une blague, OK? Mais comprenez qu'après 4 jours, les aromates, ça ne fait plus le même effet qu'au début. Alors, Marthe, quand elle dit, « Hey, attention si tu roules ça! » Il était au courant, c'est probablement elles-mêmes qui ont enroulé leur frère et qui l'ont embaumé dans cet endroit-là. Alors, on voit que même pour ça, elles font équipe ensemble, même si elles sont vraiment différentes. Alors, Lazare, là, ici, on peut voir qu'il fait une action. En fait, Lazare écoute et obéit à l'ordre de Jésus. Et j'aimerais vous dire que c'est toujours une bonne idée d'obéir puis d'écouter l'ordre de Jésus, surtout quand on est dans une mauvaise posture comme il était. C'est une très bonne idée. Alors peut-être que vous êtes dans une mauvaise posture, c'est une très bonne idée d'écouter et d'obéir ce que Jésus a à dire. Et là, on continue notre texte au verset 45. « Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie... » Pourquoi ils sont venus auprès de Marie puis pas auprès de Marthe? On voit encore le caractère émotif, sensible, qu'elle avait besoin, probablement plus que Marthe. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie, qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors là, je vous épargne tous les complots, les patentes là, que les pharisiens se disent les uns les autres. Pourquoi je vous le dis? Pas parce que la parole n'est pas bonne, mais simplement parce que ça ne va pas dans le sens de la fratrie puis de ce qui est en train de se passer là. Alors, on passe à Jean 12. Et c'est encore un épisode avec cette même famille-là. On était dans Jean 11, on tourne à Jean 12. C'est quand même proche, hein? Ça dit la chose suivante au verset 1. « Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. » Écoutez bien ça. « Marthe servait. » Quelle surprise! Quelle surprise! Mais ici, il n'y a pas de reproche, hein? Elle servait parce que, à ce moment-là, c'était la chose qui devait être faite et c'était la priorité prioritaire pour ce moment-là. OK, je ne vous ai pas perdu. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Il était présent, il était à la table. Et voici qu'on apprend ce que Marie va faire. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher en versant sur les pieds de Jésus. Et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas, l'Iscariot, fils de Simon, celui qui allait le trahir, lui dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? » Et là, je fais une petite pause ici. Là, vous comprenez que dans le texte grec, là, il n'est pas marqué un demi-litre. C'était une mesure de l'époque qui a été comme mis dans un langage pour qu'on puisse le comprendre. Mais un demi-litre de parfum, c'est vraiment beaucoup, là. C'est une quantité énorme. Les ados, s'il vous plaît, ne vous mettez pas un demi-litre de parfum de Axe. Vous allez tuer vos parents, c'est sûr. Vous allez tuer le chauffeur d'autobus, c'est sûr. Ne faites surtout pas ça. Puis évitez les parfums à lavande aussi, s'il vous plaît, OK? Amen. OK. On reboucle la boucle. Mais ici, il y a un parfum qui est, de un, une quantité énorme, puis une qualité, parce que ça vaut 300 pièces d'argent. C'est l'équivalent d'un an de salaire, grosso modo. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Et qu'est-ce qu'elle le fait? J'aimerais vous dire une grande vérité qui n'est pas écrite dans la parole. Si tu veux essuyer les pieds de quelqu'un avec tes cheveux, il faut que tu sois toi-même à ses pieds. Il n'y a pas de raccourci. Quand je vous disais que Marie va encore être aux pieds de Jésus, elle n'a pas le choix. Pour essuyer les pieds de quelqu'un avec ses cheveux, il faut que tu sois à la hauteur de ses pieds. Encore une fois, une troisième fois. Et là, ça parle de la dévotion. Et le terme ici grec qui est employé, c'est l'idée que Marie a oint les pieds de Jésus. C'est comme une onction faite avec un parfum. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec le parfum? Ce n'est pas parce que Lazare ne s'était pas lavé depuis. Puis qu'elle voulait dire, « Hey, là, ça prendrait un petit peu de parfum pour cacher l'odeur. » Ce qu'elle est en train de faire, elle prend un parfum, elle oint les pieds de Jésus, et ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle le déclare roi avant même sa crucifixion. Elle le déclare fils de Dieu. Marthe le dit avec sa bouche, elle a dit, « Je crois que tu es le Messie, le fils de Dieu, celui qui devait venir. » Et Marie déclare qu'il est le Fils de Dieu, le roi, à travers ce geste symbolique, prophétique, unique, extravagant, qu'on voit très rarement à cette époque-là. Marie ne l'a pas inventé, ça s'est déjà fait, ça, l'idée de oindre les pieds de quelqu'un en signe de révérence, en signe d'humilité, en signe de vraiment d'extrême reconnaissance. Mais elle le fait. Elle utilise ses cheveux pour essuyer les pieds. Quand je parle que Marie, le côté contemplatif, le côté dévotion, c'est quelque chose de fort chez elle. C'est un geste incroyable. Ça annonce même, et là on va lire dans le reste du texte, ça va annoncer quelque chose de puissant pour la suite. Alors, quand un des disciples, Judas, demande pourquoi on n'a pas vendu ça pour 300 pièces d'argent, ça veut dire qu'il disait ça non parce qu'il se souciait des pauvres, il n'en avait rien à faire des pauvres, mais parce que c'était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, laisse-la tranquille, laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Elle est en train de faire le geste des aromates avant même que Jésus meure. Et là, on vient d'arriver dans l'épisode de Lazare qui a eu des aromates. Vous comprenez le lien, là? Et il dit, en effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Pauvre Lazare! Il vient d'être ressuscité, puis il y a déjà des tueurs à gages son cas. C'est épouvantable! Mais j'aimerais vous dire la chose suivante sur Lazare. C'est que si les chefs religieux veulent le retuer une deuxième fois, ou veulent le faire mourir une deuxième fois, c'est parce qu'il n'était pas juste passif dans sa chambre à coucher, les fenêtres fermées puis les rideaux fermés. C'est parce qu'il était un témoin de Christ. Il témoignait de sa guérison. Est-ce qu'il le disait avec sa bouche? Est-ce qu'il le disait avec ses gestes? Est-ce qu'il chantait comme David? Est-ce qu'il dansait comme David? Je ne le sais pas. Mais d'une certaine façon, lui comme témoin, ça poussait les chefs des prêtres à vouloir le liquider. C'est grave pareil, hein? Fait que des fois, on se dit, moi, quand je vais être guéri là, de ma maladie, là, tout va bien aller partout. Peut-être que Lazare disait ça. Le jour où je vais ressusciter, je vais marcher sur l'eau. La vie va être tranquille. Ben non, ça prend pas moins d'un mois. Et puis, déjà, il y a du monde sur son cas pour essayer de le tuer. Ici, une des choses que Marie. Tu sais, dans le premier épisode Marie est au pied du Seigneur Jésus à l'écouter, Jésus va utiliser la situation pour étirer Marthe, c'est-à-dire de dire, c'est beau de servir, là, mais là, il y a une priorité prioritaire. Ici, Marie a compris quelque chose, c'est qu'elle n'a pas besoin d'attendre que les autres lui disent d'enfreindre le protocole pour aller vers Jésus. Elle l'enfreint par elle-même. Elle va faire ce geste-là sans qu'il lui soit demandé, sans attendre le bon moment. Elle le fait avec extravagance, avec dévotion, remplie d'amour pour Jésus. Petite conclusion que je veux faire alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Dieu utilise parfois notre fratrie pour nous étirer, pour permettre de voir d'autres dimensions d'une relation avec Dieu. Peut-être que vous regardez vos frères et sœurs puis vous allez dire, lui, il me semble qu'il connecte avec Jésus différemment que moi. Il se pourrait que ça soit une bénédiction et non pas une menace. Une bénédiction. Dieu utilise la souffrance pour nous faire grandir dans notre foi, mais également pour nous faire grandir dans nos familles, dans nos fratries. Dieu utilise même la souffrance pour nous faire grandir dans la foi, et même dans la famille. Cette fratrie-là représente bien les différentes facettes de la foi. Marthe, le service pratique qu'elle fait, c'est un geste d'adoration envers le Seigneur. Marie, sa dévotion, sa contemplation, c'est une façon de montrer son amour envers le Seigneur. Et Lazare, son témoignage, son obéissance, sont aussi une façon, une facette de la foi qui s'exprime par des gens différents qui ont vécu des choses différemment. Et ces trois choses-là sont bonnes. Les trois choses-là sont bonnes. Est-ce qu'on peut, un peu comme Pasteur Annie a dit la semaine dernière, est-ce qu'on peut imaginer qu'est-ce que ça serait des couples qui décident de travailler ensemble pour le royaume, quel effet ça pourrait avoir dans notre ville de Québec, dans notre entourage? Vous vous rappelez de ça? OK. Il y en a 3-4, c'est bon. Et si nos fratries pouvaient également travailler en collaboration pour le royaume de Dieu, comme Marie, Marthe et Lazare, ou je devrais dire Marthe, Marie et Lazare, comment est-ce que ça pourrait être une bénédiction pour le royaume? Cette fratrie-là a été puissamment utilisée. Hein? De un, il y a un témoignage puissant. Il y a toujours bien quelqu'un qui ressuscitait des morts. Là. C'est quelque chose, là. C'est pas banal. Là. En plus de ça, il y a un enseignement puissant sur les distractions, sur faire de l'écoute de Jésus notre priorité prioritaire. Il y a cette dévotion-là extravagante de Marie. Et j'aimerais même vous poser la question, est-ce que votre dévotion est extravagante envers le Seigneur? Je vous laisse réfléchir. Est-ce que notre dévotion, elle est calculée et rationnée comme une recette de pâtisserie? Ou notre dévotion, elle est extravagante? Elle est empreinte d'un amour qui se donne. Et l'embaumement prophétique du roi, du Messie, c'était quelque chose d'incroyable, quelque chose de puissant à quelques jours de la crucifixion de Jésus. Vous savez, Dieu tient compte de la personnalité de qui nous sommes pour répondre, pour agir, pour parler, pour pleurer. Alors arrêtons de se comparer les uns les autres et comprenons que le Seigneur nous parle parce qu'il nous a ficelé lui-même. Il a ficelé quelque chose de beau en vous. Et peut-être que ce qu'il a ficelé en vous, vous dites, « Oui, mais moi, j'aimerais ça être comme l'autre, que le Seigneur lui réponde de cette façon-là. » J'aimerais te dire ce matin, Dieu te connaît même mieux que toi-même. Et quand il te répond non pour te divertir, mais il te répond selon ce que tu as besoin. Alors, on peut lui faire confiance. Il connaît nos personnalités. Il sait comment qu'on est ficelé. Alors, notre prière, est-ce qu'on peut avoir des fratries qui servent Jésus ensemble? Puis là, on ne contrôle pas tout ça, hein? On ne contrôle pas ça. On ne contrôle pas le choix des uns et des autres. Mais on peut prier, par contre. Alors, quelques petites questions en conclusion. Est-ce que ma dévotion est de qualité? Est-ce que ma dévotion envers le Seigneur est extravagante? Est-ce que mon service est dévoué? Est-ce que mon service est rempli d'amour comme Marthe? Et là, je vais dire la chose suivante, puis ça, je suis certain que ça s'adresse à quelqu'un. Est-ce que ma culture, est-ce que le protocole m'empêche de m'approcher de Jésus? Est-ce que le protocole, est-ce que la culture, est-ce que je laisse la culture m'empêcher de m'approcher de Jésus? Et on voit dans ce texte-là que ceux qui se sont approchés n'ont pas fait comme tout le monde faisait, mais ils se sont approchés parce que Jésus était la priorité prioritaire des priorités prioritaires, de ces priorités prioritaires-là qu'on doit prendre en priorité prioritaire. Je ne le répéterai pas. Je ne serai pas capable. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? Est-ce que chacun d'entre nous, on pourrait être considéré comme l'ami de Jésus? Lazare était son ami. Marie était son ami. Marthe était son ami. Et moi, ce que je veux vous demander ce matin, est-ce que vous êtes l'ami de Dieu? Et j'aimerais vous dire même la chose suivante. Vaut mieux être l'ami de Jésus avant de s'endormir, avant de mourir, pour prendre le terme que la Bible utilise. Mieux vaut être l'ami de Jésus avant de mourir. Il y a un moment de décision ce matin, parce que Marthe a été capable de dire face aux questions de Jésus, « Oui, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Oui, je crois que tu as la puissance de ressusciter les morts. Oui, je crois que tu es la résurrection et la vie. » Et honnêtement, il y a peut-être quelqu'un dans cette salle qui ne connaît pas Jésus, que Jésus, ce n'est pas son ami. Il a entendu parler de Jésus à gauche, à droite. Il est ici peut-être pour une première fois, peut-être pour une centième fois. Mais dans son cœur, il ne se sent pas comme l'ami de Dieu. Il se sent plutôt comme un outsider, comme quelqu'un qui n'a pas de relation avec lui. J'aimerais te dire ce matin que ce que nous avons besoin de faire, c'est de faire exactement ce que Marthe a dit Oui, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Oui, je crois que tu as la puissance de ressusciter les morts. Oui, je crois que tu es la résurrection et la vie. Et j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux ensemble par respect pour chacune des personnes qui est ici ce matin. S'il y a quelqu'un qui aimerait dire ce matin, comme Marthe, « Oui, je crois que tu es la résurrection et la vie. Oui, je crois que tu es le Messie, l'envoyé de Dieu, le seul qui peut pardonner mes péchés, le seul qui peut m'appeler son ami. » Et qu'il y a quelqu'un qui, dans son cœur, sait déjà qu'il faut qu'il fasse ce move-là. Il faut qu'il fasse ce pas-là envers le Seigneur de dire, « Aujourd'hui, j'abandonne ma vie passée, j'abandonne comment je pensais et je me tourne vers Jésus, celui qui a la puissance de ressusciter les morts. » S'il y a quelqu'un dans cette salle-là qui veut dire comme Marc, « Oui, je crois que tu es le Messie et je veux te donner ma vie. » Je t'invite à lever ta main. Tout le monde ici a les yeux fermés, même les musiciens. Si tu veux donner ta vie à Christ, tu lèves ta main et je veux qu'on prie ensemble. Je vois vos mains à l'arrière. Je vois votre main à l'arrière également. Vous pouvez la descendre. Je vois ta main ici, à ma droite. Tu peux la descendre. Quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie au Seigneur, je vois ta main, tu peux la descendre. En haut également, je vois votre main à la mezzanine. Vous pouvez la descendre. Amen. Il y a plusieurs personnes qui veulent dire avec Marthe, « Oui, je crois. » J'aimerais qu'on puisse faire cette prière ensemble. Et répétez après moi. Et même si vous avez une vie chrétienne depuis 15 ans, répétez après moi. « Seigneur Jésus, oui, je crois que tu es la résurrection et la vie. Oui, je crois que tu as la puissance de ressusciter les morts, de ressusciter ma vie, de pardonner mes péchés et de me donner une vie nouvelle. Alors ce matin, j'abandonne mes anciennes voies. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je te demande de me donner la force de te suivre. Aujourd'hui, demain et jusqu'à ce que la mort nous réunisse. Seigneur éternel, tu bénis chacun qui a fait cette prière-là. Produis en eux, Seigneur, cette nouvelle naissance, cette vie nouvelle qui vient uniquement de toi, qui est ce miracle que personne ne peut produire par lui-même. Seigneur éternel, tu bénis ton peuple, tu bénis nos fratries, tu bénis nos familles. Et Seigneur, tu fais de nous des personnes qui sont à tes pieds, qui demeurent à tes pieds pour entendre ta voix, pour partager ta parole et pour grandir dans cette amitié avec toi. Alors Seigneur, c'est en ton nom, Jésus, que je le demande. Et tout le peuple de Dieu dit avec moi, Amen et Amen.